Vidocq, Mémoire, chapitre 3. Depuis l'été de 1812, un voleur de profession nommé Hollow, qui aspirait depuis longtemps à se faire réintégrer dans l'emploi d'agent secret, qu'il avait exercé avant mon admission dans la police, vint m'offrir ses services pour la fête de Saint-Cloud. On sait que je suis l'une des plus brillantes des environs de Paris, et que, vu l'affluence, les filous ne manquent jamais de s'y rendre en grand nombre. Nous étions au vendredi lorsque Otto fut amené chez moi par un camarade. Sa démarche me parut d'autant plus extraordinaire que, précédemment, j'avais donné sur son compte des renseignements par suite desquels il avait été traduit devant la cour d'assises. Peut-être ne cherchait-il à se rapprocher de moi que pour être plus à portée et de me jouer quelques mauvais tours. Telle fut ma première pensée. Toutefois, je lui fis bon accueil et lui témoignai même ma satisfaction de ce qu'il n'avait pas doué de ma bonne volonté de lui être utile. Et je mis autant de sincérité apparente dans mes protestations de bienveillance à son égard, qu'il fut impossible de ne pas se laisser pénétrer sans intention. Un changement subit qui s'opéra dans la physionomie me convainquit tout d'un coup qu'en acceptant ma proposition, je favorisais des projets dont il n'avait pas envie de me faire confidence. Je vis qu'il s'applaudissait intérieurement de m'avoir pris pour dupe. Quoi qu'il en soit, je finis d'avoir en lui la plus grande confiance, et il fut convenu entre nous que le surlendemain du dimanche, il irait à 2 heures se parser aux environs du bassin principal afin de nous signaler des voleurs de sa connaissance qui, m'avait-il dit, lui deviendraient travailler dans cet endroit. Le jour fixé, je me rendis à Saint-Cloud avec les 2 seuls agents qui fussent alors sous mes ordres. En arrivant au lieu désigné, je cherche Otto, je me promène de long en large, j'examine de tous les côtés, point d'Otto. Enfin, après 1 heure et demie d'attente, perdant patience, je détache un de mes officiers dans la grande allée en lui recommandant d'explorer la foule afin de tâcher d'y découvrir notre auxiliaire, dont l'inexactitude m'était tout aussi suspecte que le zèle. L'estafier cherche 1 heure entière et là de parcourir dans tous les sens le jardin et le parc, il revient et m'annonce qu'il n'a pas pu rencontrer Otto. Un instant après, je vois accourir ce dernier. Il était tout en nage. « Oh, vous ne savez pas, nous dit-il. Je viens d'amorcer 6 guinches, mais ils vous ont aperçu et ils ont décampé. C'est fâcheux, car ils montaient, mais... Et qui a différé n'est pas perdu. Oh, je les rejoindrai une autre fois. » J'eus l'air de prendre ce compte pour argent comptant, et Otto fut bien persuadé que je ne révoquais pas en doute sa véracité. Nous passâmes ensemble la plus grande partie de la journée, et nous nous quittâmes que vers le soir. Alors, j'entrai au poste de la gendarmerie. Les officiers de paix m'apprirent que plusieurs montres avaient été volées dans une direction tout opposée à celle dans laquelle, d'après les indications d'Otto, s'était exercée notre surveillance. Il me fut démontré dès lors qu'il nous avait attirés à un point afin de pouvoir manœuvrer plus à son aise sur un autre. C'est une vieille ruse qui rentre dans les tactiques des diversions et des faux avis donnés par les voleurs pour n'avoir pas à craindre la police. Otto, à qui je me gardais bien de faire le moindre reproche, imagina que j'étais complètement sa dupe. Mais si je ne disais rien, je n'en pensais pas moins. Et tout en lui faisant amitié de plus en plus, tandis qu'il méditait de réitérer l'espièglerie de Saint-Cloud, je me réservais de l'enfoncer à la première occasion. Notre liaison était en bon train, et elle se présenta plus tôt que je l'aurais cru espérer. Un matin, en revenant avec Gaffré du faubourg Saint-Marceau, nous avions passé la nuit, me prit la fantaisie de faire à l'improviste une visite à l'ami Otto. N'étions pas loin de la rue Saint-Pierre au Berries, où il demeurait. Je propose à mon camarade de veiller, d'y venir avec moi. Alors il consent à me raccompagner. Nous montons chez Otto, je frappe, il ouvre, et paraît surpris de nous voir. Oh, quel miracle à cette heure! Mais cela t'étonne, lui dis-je. Mais nous venons payer, te payer la goutte. Oh, si c'est ça, soyez les bienvenus. Et en même temps, il se renfonce dans son lit. Où est-elle, cette goutte? Oh, gaffe va nous faire le plaisir d'aller la chercher. Je fouille dans ma poche. Et comme Gaffe, en qualité de juif, était moins avancé dans ses pas que son argent, il se charge volontiers de la commission et descend. Pendant son absence, je remarquais qu'Otto avait l'air fatigué. Cet homme, qui s'est couché plus tard ou plus matin que de coutume, la chambre étant en outre dans cet état de désordre qui tient à une circonstance extraordinaire. Ses vêtements, plutôt jetés qu'ils n'avaient été posés, semblaient avoir reçu une inverse. Ses souliers étaient couverts d'une boue blanchâtre et encore humide. Pour ne pas conclure de tous ces indices que Otto venait de rentrer, il eût fallu pas être vidoc. Pour le moment, je ne tirais pas d'autres conséquences, mais bientôt, mon esprit se promena de conjecture en conjecture, et je conçus des soupçons que je me gardais bien d'exprimer. Je ne veux même pas être curieux, c'est-à-dire indiscret, et de crainte d'inquiéter notre ami, je lui adresse pas la moindre question. Nous parlons de la pluie et du beau temps, mais plus du beau temps que de la pluie. Et quand il ne reste plus rien à boire, nous nous retirons. Une fois dehors, je ne pus m'empêcher de communiquer à Gaffre les remarques que j'avais faites. « Oh, je me trompe fort, lui dis-je, où il a découché. Il a fait quelques expéditions en l'air. Oui, je le crois, car ses habits sont encore mouillés et puis ses escarpins sont écrotés. Oh, il n'a pas marché dans la poussière. » Otto ne songeait guère que nous nous entretenions de lui. Cependant, les oreilles devaient lui corner. Où est-il allé? Qu'a-t-il fait? Nous demandions-nous l'un à l'autre. Peut-être est-il affilié à quelque bande. Gaffray n'était pas moins intrigué que moi. Il s'en fallait que les suppositions que lui venaient à l'idée fussent favorables à la probité d'Otto. À midi, selon l'usage, nous allâmes rendre compte de nos observations de la nuit. Notre rapport était fort peu intéressant. Le mot « néant » y était écrit tout au long. « Ah, nous dit Monsieur Henri, ce sont d'honnêtes gens dans le faubourg Saint-Marceau. J'aurais été bien mieux avisé de vous envoyer sur le boulevard Saint-Martin. Il paraît que messieurs les voleurs de plomb recommencent leur jeu. Ils en ont enlevé près de 450 livres dans un bâtiment en construction. Le gardien qui les a poursuivis sans pouvoir les atteindre assure qu'ils étaient au moindre 4. C'était pendant la grande pluie qu'ils ont fait le coup. Pendant la grande pluie, parbleu, m'écriai-je, mais vous connaissez un des voleurs. Et qui donc? Ben, Holo? Otto? Oui, celui qui a servi la police et qui demande à y rentrer. Oui, celui-là même. Et je racontai à M. Henri mes remarques du matin. Et comme il resta convaincu que j'avais raison, je mis aussitôt en campagne afin de changer promptement mon évidence, ce qui n'était encore que présomption. Le commissaire du quartier, où avait été commis le vol, se transportait avec moi sur les lieux, et nous trouvâmes dans un endroit du sol l'empreinte très profonde de deux souliers ferrés. La terre s'était affaissée sous le poids d'un homme. Ces vestiges pouvaient fournir de précieuses indications. On prit des précautions pour qu'ils ne fussent pas effacés. J'étais presque certain qu'ils s'adapteraient parfaitement à la chaussure de Rodo. J'engageai en conséquence Cafre à venir avec moi chez lui, et afin de pouvoir procéder à la vérification à l'insu du coupable, j'imagine le moyen que voici. Arrivé au domicile de Rolotto, nous faisons un train d'enfer à sa porte. « Lève-toi donc, lève-toi donc, nous apportons la pâtée !» Il s'éveille, donne un tour de clé, et nous entrons en chancelant comme des individus qui ont un peu plus qu'un commencement d'ivresse. « Eh bien, dit Holo, je vous en fais mon compliment. Vous avez chauffé fort de bonne couleur. Ben, »« c'est pour ça, mon ami, lui répliquai-je, que nous venons nous enfourner. Toi qui es si malin, ajoutai-je en lui montrant sous son enveloppe une pamplette que nous avions faite en route. Dis-nous donc ce qu'il y a là-dedans. Bon, comment veux-tu que je devine ? » Alors, déchirant un des coins du papier, je mets à découvert les pattes d'une volaille. « Oh, sacrebleu ! » s'écria-t-il, « c'est un dindon ! » « Eh oui, c'est ton frère. Et comme tu vois, c'est au pied qu'on connaît ces animaux-là. Comprends-tu l'apologue à présent ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je dis qu'il est rôti. Oh, oh ! Vous serez bien fait gourer la venaison. De la venaison, tiens, sans moi ça plutôt. » Je lui passe la volaille. Et tandis qu'il la flaire et la tourne dans tous les sens, Gaffré se baisse, ramasse les souliers et les fourre dans son chapeau. « Et combien que ça coûte, cette bête ?»« Oh, un rondin, 2 balles et 2 jacques. »« Non, de Dieu, 7 livres 10 sous, mais c'est le prix d'une paire de souliers. »« Comme tu dis, mon homme, repartit l'escamoteur en frottant les mains. C'est pas d'embarras, il y a de quoi mordre. Puis l'odeur, elle est fameuse. Oh, c'est alléchant. Oh, ce sacré Jules, c'est affaire à lui. N'est-ce pas que je m'y connais? C'est vrai, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il découpe? D'abord, je fais rien, moi. Bien entendu, nous te servirons. Y a-t-il un couteau dans la caisse? Oui, cherche dans le tiroir de la commode. Je trouve en effet un couteau. Maintenant, il s'agit de trouver un prétexte de sortie pour Gaffre. Ah, oh, ça, lui dis-je, pendant que je mettrai le couvert, tu vas me faire un plaisir. C'est d'aller dire chez moi qu'on ne m'attende pas pour dîner. C'est ça. Et puis vous me casserez le ventre. Ah, oh, non, 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 pas de ça. Je ne quitte pas la place avant d'avoir gommé les vivres. Et nous ne les gommerons pas sans boire. Oui, aussi vais-je faire monter du liquide. Il ouvre la croisée et appelle un marchand de vin. De cette façon, il n'y a pas mèche à me faire la queue. Gaffray était comme la plupart des agents de police, sauf la manque, la perfidie. Bon enfant, mais un peu licheur, c'est-à-dire gourmand, comme une chouette. Chez lui, la gueule passait toujours avant le métier. Aussi bien qu'il eût pincé les souliers, ce qui était important de l'affaire, je vis qu'il serait impossible de le décider à abandonner le terrain tant qu'il n'aurait pas sa part de déjeuner. Je me hâtai donc de dépecer l'oiseau et, quand le vin fut arrivé, « Allons à table, dis-je à mon gastronome. Chic et va-t'en. » La table était le lit de Horslot, sur lequel, sans autre fourchette que celle du père Adam, nous fîmes à ce dieu qui est en nous, c'est-à-dire le dieu des intrus, député ou non, un sacrifice à la manière des anciens. Nous mangions comme des ogres, et le repas fut promptement terminé. « Actuellement, me dit Gaffray, oh, je puis marcher. Oh, je ne sais pas si tu es comme moi, mais quand le soleil luit dans l'estomac, me sent bon à rien, mais quand le coffre est plein, c'est différent. Bon, ben alors, ce cas file. Oui, oui, c'est ce que je fais. » Aussitôt, il prend son chapeau et s'en va. « Ah, le voilà parti, dit Horlot, du ton d'un homme qui n'était pas fâché d'être seul un instant avec moi. « Eh bien, mon ami Jules, reprit-il, il n'y aura donc jamais une place pour Horlot ? Que veux-tu ? Il faut prendre patience, ça viendra. Mais je t'aiderai pourtant qu'à toi de me donner un bon coup d'épaule. Monsieur Henri t'écoute. Si tu lui disais deux mots... Oh, ce ne sera pas pour aujourd'hui, car je m'attends à un galop soigné. Gaffe n'échappera pas non plus, car voici deux jours que nous ne sommes pas allés au rapport. Ce mensonge n'était pas fait sans intention. Il ne fallait pas que Otto pût me croire informé du vol auquel je présumais qu'il avait participé. Étant sans défiance, je l'entretenais dans cette sécurité. Et dans la crainte qu'il ne songea à se lever, je ramenai la conversation sur les points qui l'intéressaient le plus. Il me parla successivement de plusieurs affaires. « Ah ! » me dit-il en soupirant. « Si j'étais assuré de rentrer à la police avec un traitement de 12 à 1500 balles, j'en pourrais fournir de ces renseignements. » Avec cela que je tiens en ce moment, un petit vol avec effraction, ce serait un vrai cadeau à faire à M. Henri. Ah oui ? Eh oui, dis donc, trois voleurs, Mercier, Dibicêtre, Caffin, Liossus, que je réponds de lui donner marron. Aussi sûr comme toi et moi, ça fait deux. Eh bien, si tu peux, que ne parles-tu ? Ça ferait une belle entrée de jeu. « C'est bien, mais n'aie pas peur de te mettre en avant. Si tu rends des services, sois tranquille. Je me fais fort de te faire admettre. »« Oh, mon ami, mais tu me mets du baume dans le sang. Tu me ferais admettre. Bah, c'est pas difficile. »« Là-dessus, alors, buvons un coup, » s'écrie Horlot, comme transporté de joie. « Oui, buvons à la réception prochaine, plus aujourd'hui que demain. » Otto était enchanté. Il se faisait déjà un plan de conduite. Il formait des rêves de bonheur. Il avait dans les jambes ces inquiétudes de l'espoir qui qu'il s'agit de la perspective d'une jouissance prochaine. Il me semblait qu'il le voulut descendre de son lit. Enfin, on frappe, c'est Gaffray, tenant à la main une demi-bouteille d'eau-de-vie qu'Annette lui avait remise. « Truffe !» me dit-il, en entrant mon collègue, l'israélite, dans cet argot hébreu, qui était sans doute la langue favorite de notre patron, monsieur Judas. « Truffe » ou « marron » sont une seule et même chose. Comme je me pique d'être un hébraïsant de bonne force, je compris de suite et vis-à-vis de qui j'avais affaire. Tandis que je versais au néophyte le nectar du policien, Gaffray remit en place les souliers. Nous continuâmes de causer, de boire, et avant de nous retirer, je sus que le vol du plomb était celui dont Hortan se proposait de signaler les auteurs. Le père Belmont, ferrailleur rue de la Tranche, fut le récepteur qu'il me désigna. Ces détails étaient intéressants. Alors je dis à Otto que j'allais sur le champ en donner connaissance à M. Henri, et lui recommandant de s'informer de l'endroit où les trois voleurs avaient couché, et il me promit de m'indiquer leur gîte, et quand nous fûmes convenus de nos faits, nous nous séparâmes. Gaffray ne m'avait pas quitté. « Eh bien, me dit-il, c'est lui, oui, oui, les souliers s'adaptent parfaitement. C'est que l'empreinte est profonde. En sautant par la croisée, il aura pesé tout son corps. » Ceci était l'explication du mot « truffe ». J'en avais que faire. Déjà, je m'étais rendu compte de la conduite de Horto, et je concevais très bien le rôle qu'il venait de jouer. D'abord, il était clair qu'il avait commis le vol dans l'intention d'en tirer un profit, mais il chassait deux lièvres à la fois, et en dénonçant ses complices, il atteignait un second but, celui de se rendre intéressant aux yeux de la police, afin d'obtenir d'être réemployé. Je frémis en pensant aux conséquences d'une combinaison pareille. Le scélérat, me dis-je en moi-même. Oh, je ferai en sorte qu'il reçoive la récompense de son crime. Et si les malheureux qui l'ont secondé dans son expédition sont condamnés, il est trop juste qu'ils partagent leur sort. Je n'hésitais pas à le croire le plus coupable de tous. D'après ce que je savais de son caractère, il me semblait fort probable qu'il les eût entraînés uniquement pour se ménager l'occasion de manigancer ce qu'on appelle une affaire. J'allais même jusqu'à penser qu'il se pourrait bien qu'ayant volé seul, il eût trouvé convenable d'accuser de son méfait des individus que leur immoralité rendait suspects. Dans chacune de ces hypothèses, Otto était toujours un grand coquin, et je résolus d'en délivrer la société. Je savais qu'il avait deux maîtresses, l'une Émilie Simonet, qui avait eu plusieurs enfants de lui et avec laquelle il vivait maritalement. L'autre, Félicie Renaud, fille publique, qu'il aimait à l'adoration. Je songeais tirer parti de la rivalité de ces deux femmes, et cette fois ce fut par la jalousie que je me proposais d'en faire tenir le flambeau qui devait éclairer la justice. Otto était déjà gardé à vue. Dans l'après-midi, je suis averti qu'il est aux Champs-Élysées avec Félicité. Je vais l'y rejoindre. Le prenant à part, je lui confie que j'ai besoin de lui pour une affaire de la plus haute importance. « Vois-tu, lui dis-je, il s'agit de faire arrêter pour être conduit au dépôt, où tu tireras la carotte à grinche que nous allons emballer ce soir. Et comme tu seras au violon avant lui, il ne se doutera pas que tu es un marron. Et quand il t'emmènera, il sera plus facile de te lire avec lui. Orlo accepta la proposition avec enthousiasme. « Ah ! Soupira-t-il, me voilà donc un mouchard ! Vas-tu ? Oh, tu peux compter sur moi ! Mais il faut auparavant que je dise adieu à Félicité !» Il retourna vers elle, et comme l'heure des séductions nocturnes ou de la croisière en plein vent approche, elle ne le gourmanda pas de ce qu'il la quittait trop tôt. À présent que tu es débarrassé de ta particulière, je vais te donner des instructions. Tu sais bien la petite tabagie qui est sur le boulevard Montmartre en face au théâtre de variété. Ah oui, Brunet. Justement, eh bien, tu vas aller là. Tu te placeras dans le fond de la boutique avec une bouteille de bière et quand tu verras entrer des inspecteurs de l'officier de paix, Mercier, tu les connaîtras bien. Oh, si je les reconnaîtrais. C'est à moi que tu demandes ça, un ancien troupier. Eh bien, puisque tu les reconnaîtras, c'est bon. Et quand ils entreront, tu leur feras signe que c'est toi. Vois-tu, c'est pour qu'ils ne me confondent pas avec un autre. Moi, tranquille, ils ne me confondront pas. Sais-tu que ce serait désagréable si j'avais empoigné un bourgeois? Il n'y aura pas de méprise, parce que je ne serais pas là. Et puis le signe, ce signe, c'est tout. Tu as bien compris. Ah, mais dis donc, me prends-tu pour un cornichon? Je ne leur laisse pas seulement le temps de chercher les yeux. C'est ça. D'abord, ils ont la consigne. Si donc ils t'apercevront, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils t'arrêteront, te conduiront au poste du lycée, où tu seras deux ou trois heures. Et c'est afin que ceux que tu dois confesser t'aient déjà vu au violon, et qu'en te revoyant ensuite au dépôt, ils n'en soient pas étonnés. Ne t'inquiète pas, je battrai si bien que je défie le plus malin de ne pas me croire embarré par tout le monde. Au surplus, tu verras si je suis à mon aise et à mon article. Il topait de si bonne foi que véritablement je regrettais d'être obligé de tromper de la sorte. Mais en me retraçant sa conduite à l'égard de ses camarades, cette velléité de pitié que j'avais ressentie un instant se dissipa sans retour. Il me donne la main et le voilà parti. Il marche avec la vélocité de satisfaction. La terre ne le porte plus. De mon côté, non moins rapide que lui, je vole à la préfecture où je trouve les inspecteurs que j'avais annoncés. L'un d'eux était le nommé Cauchoir, aujourd'hui gardien à Bicêtre. Et je leur dis de quelle manière ils doivent agir, et je les suis. Ils entrent dans la tabagie. À peine ont-ils franchi le seuil, Otto, fidèle à la recommandation que je lui avais faite, s'indique du doigt en montrant sa poitrine comme un homme qui dit « c'est moi ». À ce signe, les inspecteurs vont droit à lui et l'invitent à exhiber ses papiers de sûreté. Otto, fier comme Artaban, le répond qu'il n'en a pas. « Ah, en ce cas, lui dit-il, vous allez venir avec nous. » Et pour l'empêcher de fuir, si par hasard lui en prenait la fantaisie, on l'attache avec des cordes. Pendant cette opération, une sorte de contentement intérieur se peignait dans les regards de Otto. Il était heureux de se sentir garrotté. Il bénissait ses liens, il les contemplait presque avec amour, car, suivant lui, Tout cet appareil de précaution n'existait que pour la forme. Et au fond, comme je ne sais plus trop lequel philosophe de l'Antiquité, il pouvait se vanter d'être libre dans ses chaînes. Aussi disait-il tout bas aux inspecteurs, « Peu diable m'emporte si je me sauve. Les parleries et les parlures ligotées, les mains et les pieds attachés. On s'y prendrait pas autrement pour fisser un 9 francs de cœur, pain de sucre. C'est fort bien. C'est ce qui s'appelle goupiller, travailler. » Il était environ 8 heures du soir lorsque Holo fut mis en prison en violon. Et à 11 heures, on n'avait pas encore ramené l'individu qu'il devait confesser. Ce retard lui parut extraordinaire. Peut-être cet individu s'était-il dérobé à la poursuite, peut-être avait-il avoué. Dès lors, le secours du mouton devenait inutile. J'ignore quelle conjecture formait le prisonnier. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, ennuyé de ce qu'on ne venait pas, imaginant qu'on l'avait oublié, il pria le chef du poste de faire parvenir le commissaire de police qui était encore là. « Oh, s'il est là, qu'il y reste, » dit le commissaire. « Ça ne me regarde pas. » Et cette réponse, transmise à Ordo, révéla en lui d'aucune autre idée que celle de la négligence des inspecteurs. « Si encore j'avais soupé, » répéta-t-il, avec l'accent comico-piteux de cette larmoyante gaieté, qui est moins touchante que risible. Il s'en moque. Peut-être qu'il sort dans un coin à s'en passer, et moi, je suis ici, à siffler la linotte. Deux ou trois fois, il appela, tantôt le caporal, tantôt le sergent, puis pour leur compter ses doléances. Il n'y eut pas jusqu'à l'officier de garde qui le supplia de le laisser sortir. « Je reviendrai, s'il faut, » lui protestait-il. « Que risquez-vous, puisque je suis emballé que par la fond ?»« Pour la frime !» Malheureusement, l'officier qui nous rapporta le lendemain ce détail était un de ces incrédules dont l'obstination est désespérante. Otto n'était tourmenté que par son appétit. Pour les gens qui croient au remords, c'était bien une présomption d'innocence, mais pour les gens qui ne croient qu'aux ficelles, la fatalité voulut que monsieur l'officier fût de ce nombre. Et puis, comme il était interdit de rien prendre sur lui, quelque envie qu'il en ait eue, il tira une bonne fois le verrou sur Orto, et ne pouvant en revenir de l'étourderie des inspecteurs, faisait entendre à travers la porte ce monologue entrecoupé où peignait des alternatives tout à fait grotesques de résignation et d'impatience. « Oh, mais c'est un peu fort de café, sans compter le mar. Ils ne laisseront pas passer la nuit. Impossible, ils vont venir. Mais pas plus d'inspecteur que de beurre sur la main. Peut-être qu'ils se retrouvent arrêtés, retardés. Oh, que je voudrais être derrière eux. Comme j'ai remuré. Il n'y a pas de leur faute. S'il n'y a pas de leur faute, il n'y a rien à dire. Décidément, ils m'ont planté là pour ravir. Cependant, tant qu'on n'aura pas amené ma nouvelle connaissance, oh, pour le coup, mais c'est se foutre du pauvre monde. Dans le fait, s'il n'est pas empoigné, ils ne peuvent pas non plus. Il n'y a pas de bon sens, moi qui n'en ai plus depuis que je suis levé. Allons, messieurs, quand il vous plaira, à votre aise, Je suis là. Sont-ils chiens? On ne fait pas toujours pour ce qu'on veut, coquin le sort. C'en est-il d'une sévère? Sévère ou non, je me suis bloqué. Quand je m'en mangerai, allez, ne parlons pas de manger. Comme mes boyaux crient, parbleu, ils crieraient à moi. À la fin, c'est que ça crie vengeance. Au fait, c'est l'état du métier. J'en ai l'étreine. Oui, je suis joliment étraîné. Il faut en convenir. Est-ce qu'il ne serait pas fait casser la gueule? Le tour est fameux, par exemple. Jeune, mon cadet, jeune, oh, comme c'est régalant. Bon, on ne meurt pas pour mal avoir. Je jeûnerai mieux demain. Je gagerais qu'ils s'en tapent une culotte, les grenins. Oh, si je les tenais. Mais pas dans l'embarras, la farce, elle est bonne. Nom de Dieu, tripes, son de Dieu, eh bien. Qu'est-ce qu'il y a, garçon? Tu te fâches? À la force aussi. Si la faim fait sortir le loup du bois, sors donc, comme c'est facile. Si encore j'avais mon dindon de ce matin, si mon ami Jules était ici, il sait pas, car s'il savait, Otto disait comme le peuple, si le roi savait, mais tandis qu'il déplorait mon ignorance, et qu'il était si loin de prévoir les suites d'une arrestation qu'il supposait simulée. Explorant les petites rues aux alentours de la place du Châtelet, j'avais rejoint Émilie Simonet dans l'une de ces misérables taudis où, pour l'agrément des petites bourses, une dame de maison tient des liqueurs et des filles qui s'amènent mutuellement la pratique et se servent d'enseignes sans être de meilleure aloi les unes que les autres. Ici, les liqueurs sont comme l'entrée secrète du bureau de loterie, un moyen de tromper l'espion. L'amateur honteux s'introduit sous le prétexte de prendre un petit verre et il s'empoisonne deux fois. C'est dans ces espèces de café borgne que les rebuts de la prostitution s'amoncellent et s'écoulent à la faveur de l'ivrognerie ou de la pauvreté du chaland. Plus d'une ci-devant beauté, aujourd'hui réduite à l'humble handicap de drap, à jupe de molleton et aux sabots, si elle ne préfère les philosophes, les souliers à 15, 20 et 25 sols, y exploite la tradition bien obscure, quoique récente, de ces charmes qui lui valent l'Amazone et le voile vert qu'elle promenait naguère dans les cavalcades de Montmorency, ou bien l'élégant tilbury qui le portait à Bagatelle. J'ai vu de ces échéances, pour n'en citer qu'un exemple entre mille, une des camarades d'Émilie, elle se nommait Caroline, avait été la maîtresse d'un prince russe. Au jour de sa splendeur, 100 000 écus par an ne suffisaient pas au train de sa maison. Elle avait eu des équipages, des chevaux, des laquais, des courtisans. Elle avait été belle, très belle, et tout cela était évaporé. Elle était camarade d'Émilie et peut-être plus dégradée encore qu'elle. Constamment absorbée par des spiritueux, elle n'avait plus un instant de lucide. La dame de maison, qui pourvoyait à sa toilette, car Caroline ne possédait plus une loque, était obligée de veiller sur elle comme le lait sur le feu pour qu'elle ne vendît pas ses effets. 100 fois elle avait été ramenée au gîte, nue comme un ver. Elle avait tout bu jusqu'à sa chemise. Telle est la triste condition de ces créatures qui presque toutes ont eu dans leur vie une veine d'opulence et après avoir jeté l'or à pleine main, sans être moins prodiges, elles en viennent à convoiter le pain de la caserne et le balai que délectèrent les sorbets de Tortoni trouve de la saveur aux patates de la grève. C'est à cette catégorie des courtisanes qu'appartiennent ces demoiselles qui font les délices des maçons, des commissionnaires et des porteurs d'eau. Entretenues par les libertins de cette classe laborieuse dont les libéralités forment leur casuelle, à leur tour, quand elles ne sont pas grugées par un maître d'armes, un banquiste ou un chanteur des rues, elles entretiennent des voleurs, ou tout au moins, elles sont de la haute, en bonne position, à charge de revanche. Elles soulignent durant les détresses du cachot et de la morte saison. Elles soulagent. La camarade de la princesse Caroline, Émilie Simonet ou Madame Hulto, était précisément de ce calibre. C'était un bon cœur fini, et ce fut chez la mère Bariol que je la rencontrai. Oh, la mère Bariol, bonne femme s'il en fut jamais, et honnête autant qu'il soit possible de l'être dans sa profession, jouit d'une espèce de considération parmi les débauchés qui hantent ces boutiques en partie double, révoltant en portique d'un sanctuaire où, bravant tous les dégoûts, la volupté et la misère, se côtoient et s'intéressent tour à tour. Depuis près d'un demi-siècle, son établissement est la provenance et le dernier refuge de ces laïcs que les conséquences de leur déshonneur et le temps rapide dans ces ouvrages ont précipité sous la même juridiction que le ruisseau et la borne. C'est le vieux sérail où ne doit pas pénétrer celui qui ne cherche qu'à réjouir son esprit par des images gracieuses. Et là, le poil enchanteresse, l'ermite de la Chaussée-Lantin n'est plus qu'une hideuse gourgandine qui, entre l'hôpital et la prison, alternant de l'un à l'autre, épuise à son corps défendant les vicissitudes d'une carrière dont les dernières espérances sont sur le pavé. Dans cet asile, le luxe de la rue Vivienne a fait place à la friperie du temps. Et celle qui, durant l'éphémère triomphe de ses attraits, désignait à peine effarée les prémices de la mode, trouve encore de quoi se parer dans les atouts flétris, tombés de chute en chute au vestiaire de la mère Bariol. Ainsi voit-on la ridelle du fiacre reprendre avec fierté le harnais qui l'humiliait au temps où sa croupe arrondie faisait la gloire d'un brillant équipage. Oh, si la comparaison manque de noblesse, du moins est-elle juste. Ce serait une histoire bien curieuse et surtout bien profitable à la morale que celle de quelques-unes des pensionnaires de Madame Bariol. Peut-être serait-il à propos d'y joindre la biographie, cette vénérable matrone, qui, placée pendant 50 ans à la source des coups de poing, des coups de poing et des coups de sabre, a traversé cette longue période sans attraper seulement une égratignure. Amie de la police, amie des voleurs, amie des soldats, enfin amie de tout le monde, elle a la conscience invulnérable au milieu des échauffourées sans nombre, et les mille et une batailles dont elle a été témoin, sabins ou romains, lorsque le combat s'engageait à propos de ces dames, malheur à qui aurait touché aux cheveux de la mer. Son comptoir, c'était comme l'arche sainte. Il était le territoire neutre que respectaient même les bouteilles là lancées. Voilà ce qui s'appelle être chéri. Pas une de ces Sabines qui lui versait son sang pour elle. Il fallait voir le matin comme elle s'empressait de lui donner leurs rêves pour les mettre à la loterie. Et à l'approche du terme, quand l'épargne destinée à acquitter leur loyer était insuffisante parce que la tirelire de prévoyance avait été écornée, les pauvres filles se donnaient-elles du mal pour combler le déficit? Quelle désolation! Si soudain, pour satisfaire son propriétaire, elle était réduite à engager ses timbales d'argent. Dans quoi ferait-elle chauffer la petite chopine de vin sucré qu'elle avale souvent avec son Suisse ou dans la compagnie de commère, lorsque, geignant ensemble et déplorant la dureté des temps, nez à nez, coude sur table, elles se comptent leurs peines à petites gorgées? Cette chère même Bariole, que de fois elle mit au monde piété pour régaler d'huîtres et de vin blanc la milice du bureau des mœurs. Comme les inspecteurs la trouvaient généreuse et les voleurs compatissantes, confiante de ses deniers, elle ne les trahissait jamais. Elle écoutait aussi avec intérêt les plaintes des compagnons sans ouvrage, et se mord le poids pour recueillir la fève. Augurait-elle bien de l'avenir d'un individu? Sous le semblant de l'amitié, elle lâchait le verre consolation, voire même la créature à crédit, si désargentée, batteur de femmes, désœuvrée, était un remplaçant, près de toucher son beurre. « Travaillez, mes enfants, disait-elle aux ouvriers dans tous les genres. Avec moi, pour être bienvenue, il faut que l'on travaille. » Elle ne faisait pas la même recommandation aux militaires, mais elle gagnait leur affection par sa sollicitude sans fin au sujet de l'appel et du contre-appel. Elle maudissait avec eux la salle de police, et pour achever de leur plaire, en cas de rixe, elle n'envoyait chercher la garde qu'à la dernière extrémité. Elle détestait les colonels, les capitaines, les adjudants, les sous-lieutenants, enfin, toutes les épaulettes. Mais les galons, elle en raffolait, et rien n'égalait sa tendresse pour les sous-officiers en général, notamment pour les petits fourriers qui lui semblaient gentils. Elle était leur mère à tous. Un petit fourrier, ai-je entendu souvent, quand vous reviendrez avec le sergent, amenez donc le major. Oui, maman Bariole. Et entre les heures d'exercice, la maison ne désemplissait pas. Madame Bariole vit encore. Mais depuis que je ne suis plus obligé de la voir, j'ignore si son établissement s'est maintenu sur le même pied. À l'époque où je la connaissais, elle avait pour moi tous les égards auxquels un mouchard peut prétendre. Elle fut aux anges quand je lui demandais Émilie Simonet, qui était sa favorite. Alors Madame Bariole crut que je venais jeter le mouchoir dans son harem. Mais tu ne l'aurais pas demandé que je te l'aurais donné. Ah oui, elle est donc votre préférée. Que veux-tu? J'aime les femmes qui prennent soin de leurs enfants. Si elle les avait mis là-bas, J'aurais jamais regardé. Ces pauvres petits êtres, ça ne demande pas à naître. Pourquoi que des chrétiens n'auraient pas autant de naturel que des animaux? Sa dernière est ma filleule. C'est le portrait de Holo, tout se cacher. Oh, je voudrais que tu la vois. Elle grandit comme un petit champignon. Ben, elle ne sera pas bête, celle-là. Il n'y a pas à dire, elle comprend déjà tout. Mais elle est précoce. Oui, jolie, c'est un amour. Laisse faire seulement quel est l'âge d'une espèce d'une pièce de 15 sols. Oh, je suis bien sûr qu'elle gagnera sa mère de l'argent gros comme elle. Avec une fille, il y a toujours des ressources. Oui, je sais bien. Oui, le bon Dieu la bénira, Émilie. Avec ça que depuis un bout de temps, elle n'a pas de malheur avec les hommes. Est-ce que le bon Dieu se mêle de ça? Oh, pagaille! Vous autres qui êtes des parpaillots, vous croyez en rien. Vous avez donc de la religion, mère Bariole? Je crois bien que j'en ai. J'aime pas les prêtres, mais c'est tout de même. Il n'y a pas encore 8 jours que j'ai fait faire une rengaine à Sainte-Geneviève pour avoir une terre au tirage de Bruxelles. On a passé le baillet sous la chasse. Et le bout du cierge, elle vous fait brûler? Tais-toi donc, païen! Je parie que vous avez du buis de Pâques à la tête de votre lit. Un peu, mon neveu. Avec que faudrait-il pas vivre comme les bêtes? La Bariole, qui n'aimait pas être contrariée au sujet de sa croyance, se mit à appeler Émilie. Dépêche-toi, lui cria-t-elle. Attends, mon garçon, je vais voir si elle a fini. Oui, vous ferez bien, car je suis pressé. Émilie parut bientôt avec un caporal des pompiers qui, sans regarder derrière lui, prit immédiatement congé d'elle. Puisqu'il ne songe pas à son A6, à son K6, répéta la Bariole, il n'y a qu'à le remettre dans la bouteille. Oh, je le boirai, dit Émilie. Alors, pas de ça, Lisette, pas de ça. Vous plaisantez, il est payé, buvant. Tiens, il y a des mouches. Ça te rendra le cœur gai, m'écriai-je. Eh bien, je ne croyais pas si bien dire. C'est toi, Jules. Et qu'est-ce que tu fais donc dans le quartier? Ben, j'ai su que tu étais ici et je me suis dit, oh, faut que je voie la famode, oh, je lui paierai une chopine en passant. Agathe, commanda la Bariole, servez une champine. Et Agathe, aussitôt faisant, suivant l'usage, vit à descendre à la cave, fila par derrière, chez le marchand de vin, d'où elle apporta 1 litre dont elle réserva les 3/4, en baptisant le reste, afin d'obtenir la quantité. Oh, il n'est pas drogué, celui-là, me dit Émilie. Pendant que je versais dans son verre. Vois-tu, il fait des bulles. C'est son bon signe. Oh, j'en boirai encore aujourd'hui. Je lui faisais un grand plaisir en offrant d'humecter ses poumons. Mais ce n'était qu'un premier pas pour m'attirer sa confiance. Il fallait faire arriver insensiblement au chapitre de ses griefs contre Holto. Je ménagère assez habilement les transitions pour ne lui inspirer aucune crainte. D'abord, je commençais par déplorer mon sort. Les filles, quand on se lamente à propos de malheurs qui leur sont arrivés et sont à leur portée, ne tardent pas à faire chorus. J'en ai vu plusieurs avant la seconde chopine, fondre en larmes comme des madeleines. Et à la troisième, je devenais leur meilleure amie. Alors, elles n'y tenaient plus, tout ce qu'elles avaient sur le cœur partait par une explosion soudaine. C'était le moment de ces épanchements dont l'exorde est toujours « Oh, en fait de traverse, chacun les siennes !» Émilie, qui dans la journée avait déjà passablement avalé la douleur, ne tarda pas à exhiber sa plainte au sujet de sa rivale et des infidélités de Otto. « Et c'est-tu pas encore un fier lapin que toi, Otto ? Des cochons comme ça, ça mérite-t-il pas d'avoir des femmes ? De faire des traits pour une félicité ? Oh, entre nous, c'est pas le diable que félicité. Et si j'avais à faire un choix, moi je te signais mon billet que c'est à toi que je donnerais la préférence. » Ah, voilà encore Jules qui bat, qui se moque. Tu prends ton café. Oh, je sais bien que Félicité est meilleure, plus belle que moi, mais si je ne suis pas si gironde, si gentille, j'ai un bon cœur. Tu as vu lorsque je lui portais le pagnerogne à la serpe, la provision à la force. C'est là qu'il a pu juger si j'avais de la probité, de la bonté. Oui, pour ça, c'est la vérité. Tu avais bien soin de lui, j'en ai été témoin. N'est-ce pas, Jules, que si j'ai tout, que j'ai tout fait pour lui? Ce vilain roi mal tourné. Éloignez-vous donc le tempérament. Pouf. Oh, je me suis si dérangé une minute de mon commerce. Je ne crois pas qu'il y ait un centime à reprendre sur ma conduite. Une épouse légitime qui serait mariée et tout n'aurait pas fait plus. Oh, mais qu'est-ce que tu dis ? Elle n'en aurait pas fait autant. Eh ben non, bien sûr. C'est pas encore ça. Il n'ignore pas que je suis sujette aux enfants quand il a des 15 mois en faquet. J'ai-t-il pondu sur l'on sans lui ? Oh, c'est-il de la vertu ? Qu'il en trouve donc beaucoup comme ça, jusqu'à me priver de tout. Il n'y a que mon soulier qui sait ça. S'il pouvait parler, il en dirait long. En a-t-il eu de ces pièces de 10 sous qui passaient devant le nez à la bariole ? Il devrait pourtant s'en souvenir, mais graisser les bottes d'un vilain... Oh oui, tu as bien raison. Ce n'est pas Félicité qui lui en aurait donné. Félicité ! Elle en aurait plutôt mangé si elle avait pu. Mais c'est toujours celle-là qu'on aime le mieux. Alors elle soupire, boit et soupire encore. Ah, ça, puisque nous sommes tous là, tous les deux, les as-tu vus ensemble ? Dis-moi la vérité, foi de Billy Simonet, qui est mon vrai nom. Que tout ce qui va être entré ou n'entrera dans le corne. Vous me servez de joie, ce poison, et que je meure sur la place, ou que je sois servi marron, ou première misère que je grachirai, pris sur le fait au premier individu que je volerai, si je lui en ouvre simplement la bouche. Oh, que veux-tu que je te dise ? Vous êtes toutes des bavardes. Parole d'honneur. Prenant l'air et le ton solennel, sur la cendre de mon père, qui est mort comme tu existes. Cette formule homérique n'est plus usitée que parmi les prêtresses de Vénus cloacomée. D'où leur est-elle venue, je n'en sais rien. Peut-être que quelques filles de blanchisseurs pourrait-elle jurer que les cendres de sa mère, mais sur la cendre de mon père, ces mots font bien pire que ce nébuleux prophétique qui fait trembler Fontenelle. Il renferme toute une monographie dans la bouche d'une femme qui vise à jouer l'honnêteté. Ils sont toujours de fort mauvaise augure, quelle que soit sa mise ou son état actuel, sans courir le risque de se tromper. On peut lui dire que je le connais, Bromasque. Ce serment, vu la qualité des personnes qui le prodiguent, m'a toujours semblé si burlesque que jamais il n'a été prononcé devant moi sans qu'il ne m'ait pas aussitôt donné une irrésistible envie de rire. « ris donc, me dit Émilie. N'est-ce pas que c'est bien risible ? Va, tais-toi donc. C'est vrai avec lui, il n'y a pas de plaisir. Y croit rien. Je veux être la plus grande coquine qu'il n'y a pas sous la haute des cieux, surtout que je l'ai plus cher au monde, sur la vie de mon enfant, que c'est un serment que je fais jamais, que tous les malheurs m'arrivent si je parle de toi. Et en même temps, retirant en avant le pouce de sa main droite, dont l'ongle engagé sous la rangée supérieure de ses dents s'échappe avec un léger bruit, elle ajoute, en crachant et s'en signant à la fois, « Tiens, Jules, c'est sacré. Ainsi tu vois, c'est comme si le notaire y avait passé. » Et pendant cet entretien, notre chopine avait été plusieurs fois renouvelée. Plus nous buvions, plus la Pénélope d'Otto devenait pressante et me protestait de sa discrétion. « Ben yo, mon petit Jules, qu'est-ce que ça te fait ? Quand je te promets qu'il n'en sera rien. Ben alors, non, t'es bonne fille, t'es si bonne fille que je vais tout faire, tout ce qu'il est. Mais t'es averti, ne mange pas le morceau. Sinon, gare à toi, je t'en voudrais à la mort. Otto est mon ami, entends-tu ? Oh, il n'y a pas de risque. Et quand on me dit quelque chose, montrant de la main sa poitrine, c'est là, là, c'est mort. Ah, eh bien, je suis allé ce soir aux Champs-Élysées. Et j'ai vu ton homme avec Félicité. Oh, ils ont d'abord disputé. Elle disait qu'il t'avait mis dans sa chambre de la rue Saint-Pierre au Bœuf. Il lui a juré que non, et qu'il n'avait plus de fréquentation avec toi. Tu sens bien que, vis-à-vis d'elle, je n'ai pas pu faire autrement que de dire comme lui. Alors ils se sont remijotés, réconciliés, et d'après les mots de leur conversation, oh, je répondrais bien que la nuit d'hier à aujourd'hui, il a couché avec Félicité, place du Palais Royal. Oh non, pour ça c'est pas vrai, car il a été avec des amis. Oui, avec Caffin, Bicêtre et Linois. Otto m'a raconté ça. Comment donc, il t'a dit ça ? Il m'avait pourtant bien défendu d'en parler. Oh, voilà comme il est. Et puis après, s'il lui arrivait de peine, il me battrait. N'as-tu pas peur ? Va, c'est pas moi qui ferai jamais un trait à son ami. Si je suis rossé, mouchard, il me reste encore des serments, sentiments. « Très bien, mon pauvre Jules, que t'as été forcé d'entrer à la boutique plutôt que de retourner au pré, au bagne. C'est tout de même à la boutique ou non, je suis brave. Et si j'avais quelqu'un à faire de la peine, ce serait pas à Otto. »« T'as bien raison, mon pauvre lapin. Faut jamais trahir les camarades. Et mon homme, dis-moi, où donc qu'il est avec ça ? » Molière lui dit le mot, mais le lecteur le cherchera. « Veux-tu le savoir ? Bon, ils sont allés se fiancer, se coucher chez Bicêtre. Par exemple, je ne te donnerai pas l'adresse, car je ne l'ai pas demandé. Ah, ils sont chez Bicêtre, oh, c'est bon, c'est bon. Je vais joliment les révolter. J'irai avec toi. C'est loin qui demeure? Tu connais la rue du Bon-Puy? Oui? Eh bien, c'est là, chez Laïe, au quatrième. Oh, sois tranquille. Elle portera de mes marques. Jules, as-tu une pièce de 10 liards que je lui taille sur pied, sur la fribousse? Ah non, je n'en ai pas. C'est égal. J'ai ma clé dans mon mouchoir. Ah, ils vont voir mon verri, oui. Il me semble que je chanterai ça ce matin. Trois valets dans mes cartes. Écoute, c'est pas tout que des choux. Ça serait pas le plan de te montrer si il sort pas. T'as confiance en moi, laisse-moi faire. Je monterai d'abord et si je reste, tu sauras ce que ça veut dire. C'est que j'aurai trouvé les oiseaux. C'est ça, c'est pas bête. Il faut être sûr avant de faire du ramdam. Quitte à page. Nous arrivons rue du Bon-Puy, j'entre, et après m'être assuré que Bicêtre est au gîte, je rejoins Émilie, dont le vin et la jalousie avaient achevé de troubler la cervelle. Regarde, si ce n'est pas jour de malheur. Ils viennent de partir avec Bicêtre et sa femme pour aller souper chez Linois. Je me suis informé, ou on n'a pas pu me le dire. Peut-être bien qu'ils n'ont pas voulu, mais c'est rien, c'est rien. Je sais où ce que loge Linois. C'est chez sa mère. Tu m'accompagneras. Tu as demandé pour t'embrouiller. Sans t'embrouiller, pour rien, qu'on ne se doute de rien. Oh, ça m'a tu me trimballer jusqu'à demain. C'est bon, Jules. Tu te refuses. Mon Minet, faut pas, fuis pas, fuis pas. Tu verras que tu n'auras pas à t'en repentir. Je te ferai plutôt un sourire, un baiser. Le moyen de résister à une souris. Alors je me laissais entraîner dans la rue Jean-Collet, et là je grimpais à 6e étage, où je vis Linois, qui ne me connaissait que de nom. Oh, je cherche après Otto, lui dis-je. Vous ne l'auriez pas vu? Oh non, me répondit-il. Mais comme il était couché, je me retirai après lui avoir souhaité une bonne nuit. Faut-il avoir du guignon? Alors j'ai encore fait la corvée. Ils sont venus, mais ils sont partis pendant le cadin qui voit payer le vin. Où demeures-tu, Caffin? Où demeure-t-il? Oh, pour s'il y a de celui-là, je serais bien embarrassé de le dire. Mais comme c'est un paillasson, un coureur de femmes, je suis certaine de savoir aux femmes de la Roche-aux-Vaux. Viens, 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 je t'en prie. Mais veux-tu me faire faire les quatre coins de Paris? Il se fait tard, je n'ai pas le temps. Je t'en prie, Jules. Ne me quitte pas, l'inspecteur, à la fin. N'aurait qu'à m'emballer. Comme la complaisance était utile, je ne me vis pas trop tirer l'oreille. Je me dirigeais avec Émilie du côté de la place aux Veaux, et de canons en canons, prenant du courage dans chaque cabaret. Nous venons à l'endroit où j'espère compléter les renseignements qui me sont nécessaires. Nous volons, l'expression est hardie, car malgré le soutien de mon bras, Émilie, trop abreuvée, avait une peine infinie à mettre un pied devant l'autre. Mais plus sa marche devenait chancelante, plus elle était communicative, si bien qu'elle me découvrit les plus secrètes pensées de son infidèle. Je sus d'elle tout ce qu'il m'importait de savoir sur le comte de Holto, et j'eus la satisfaction de me convaincre que je ne m'étais pas trompé en le jugeant capable d'avoir lui-même dirigé les voleurs qui se proposaient de livrer à la police. À 1 heure du matin, j'étais encore en exploration avec mon guide, Émilie se promettant de retrouver Otto, et moi de découvrir Caffin, lorsqu'une nommée Louison la Blagneuse, dont nous fîmes la rencontre, nous annonça que ce dernier était avec Émilie Taquet et qu'il pesterait la nuit, qu'il passerait la nuit ou chez la Bariole ou chez le Blondin, qui était ainsi aussi en possession d'héberger les amours. « Merci, ma petite, » dit aussitôt la fille Simonet à la consoeur qui nous donnait ses précieuses indications. « C'est bien ça, » poursuivit-elle. « Bicêtre est avec sa femme, Linois et Caffin sont avec la leur, et Holo est avec Félicité. » Chacun sa chacune, oh le scélérat. Il aura ma vie ou j'aurai la sienne. Ça m'est égal de mourir. » Grinçant des dents et s'arrachant les cheveux. Jules, ne m'abandonne pas. Faut que je les tue, mon ami. Faut que je les tue. Pendant cette rage de vengeance, nous ne laissons pas de gagner du terrain. Enfin, nous voici au coin de la rue des Arcs. 6. Qu'est-ce donc, Mélie ? Articule une voix rauque qui semble s'échapper par un soupirail. Et à la lueur du réverbère, je distingue une femme accroupie dans la posture qu'il faut imaginer cette estampe. Nécessité n'a pas de loi. Elle se lève et s'approche de nous. « Ah, oh, c'est la petite Mandelon !» s'écrie Émilie. « Ah, ma grosse, ne me parle pas. Je suis en révolution. T'as pas vu Caffin ce soir ?»« Caffin, que tu dis, Caffin ?»« Oui, Caffin. Ils sont chez la mère Bariole. » Il n'est point d'heure inouïe quand on consomme. D'ailleurs, Émilie était de la maison. Nous entrons et nous apprenons qu'en effet, Caffin est au logis, mais que Otto n'a pas paru. À cette nouvelle, Madame Otto imagine qu'on veut lui cacher le poteau rose. « Oui, vous soutenez le vice, » dit-elle à la Bariole. « Rendez-moi mon homme. Viens ici. Vieille sorgue. » Il ne me souvient pas trop des épithètes qu'elle accumula. Et ce fut durant un quart d'heure un feu roulant, entretenu par une succession de verres, de camphres, d'eau de vie, jetés dans un vin qui déjà faisait fermenter la jalousie. « Auras-tu bientôt fini avec tes raisons ?» interrompit la Bariole, qui était bon cheval de compète. « ton homme, il est au moulin, le diable retourne. Mais l'as-tu donné à garder, ton homme ? C'est-tu pas un beau mordiau ? L'homme à tout le monde. » « Oh, bien des hommes comme ça, j'en ai plein. Tu crois qu'il est avec Caffin ? Va plutôt voir. Monte à la chambre à Taquet. » Émilie ne se le fait pas dire deux fois. Elle procède en effet à la vérification et revient. « Ah, te voilà contente, hein ?» lui dit la Mariole. « Mais il n'y a que Fafin. T'avais-je pas dit ? Mais où est-ce qu'il est, le monstre ? Mais où est-ce qu'il est ?»« Si tu veux, lui dis, je te mènerai où il est. » « Ah, oh, mène-moi-y, mène-moi-y, fais ça pour moi, Jules. »« Ah, c'est qu'il y a loin, d'ici, à l'hôtel d'Angleterre. »« Ah, tu penses qu'il y est ?»« Oh, j'en répondrai. Il sera allé passer une heure ou deux, pour attendre que Félicité finisse sa soirée. »« Et de là, il aura été la retrouver, rue Vrai-Franc-Manteau. » Émilie ne doutait pas que je l'eusse parfaitement deviné. Aussi ne tenait-elle pas en place. Elle releva dans sa peau, elle crevait dans sa peau. Et ne me laissant ni paix ni trêve, que je n'eusse consenti à entreprendre avec elle le voyage de l'hôtel d'Angleterre. Le trajet me parut long, car j'étais le cavalier d'une dame dont le centre de gravité, vacillant à l'excès, de donner fort fort travail pour garder moi-même mon équilibre. Cependant, moitié traînant la belle, moitié la portant, je parvins avec elle dans la rue Saint-Honoré, à la porte du repère où elle comptait rencontrer son objet. Nous parcourons les salles, sans crainte de se déranger d'amoureux tête à tête. Nous donnons notre coup d'œil dans chacune des cabinets qui forment sur le corridor une double rangée d'apartés. Otto n'y était pas. Et la rivale de Félicité était au sans-coup. Ses yeux s'échappaient de leur orbite, ses lèvres se couvraient d'écume. Elle pleurait, elle fulminait. Oh, c'était une épileptique. Une énergumène, échevelée, pâle, le visage horriblement contracté, et les cornes du cou tendues. Elle offrait l'aspect hideux d'une de ces yomeries cadavéreuses auxquelles le fluide galvanique a rendu le mouvement terrible, effet de l'amour et de l'eau de vie, de la jalousie, et du vin. Toutefois, dans la crise qui l'agitait, Émilie ne perdait pas de vue. Elle s'attachait à moi et jurait de ne pas me quitter, qu'elle n'eût rejoint l'ingrat qui lui causait tant de tourments. Mais elle n'avait plus rien à m'apprendre. Il y avait assez longtemps que je la traînais pour souhaiter me débarrasser d'elle. Je lui fis entendre que j'allais m'enquérir si Félicité était rentrée, ce qui était facile, puisqu'elle habitait dans une maison à portier. Émilie, qui jusque-là avait eu tant de à se louer de ma complaisance, ne pouvait que me savoir gré, bon gré, de la nouvelle preuve de zèle que j'offrais de lui donner. Je sors sans qu'elle manifeste le dessein de me suivre, et au lieu de m'acquitter de la commission que j'avais sollicitée, je me rends au corps de garde de Château d'Eau, où m'étant fait reconnaître du chef de poste, je le priais de la faire arrêter et de la tenir au secret le plus rigoureux. Sans doute, il m'en coûta d'en venir à cette cruelle extrémité. Après tout le mouvement qu'elle s'était donné, l'on en conviendra. Émilie méritait un meilleur sort, du moins pour cette nuit. Elle la passa au violon. Combien de devoirs, et quelquefois pénibles à remplir. Personne mieux que moi ne savait où était le bien-aimé. Qu'elle maudissait. Ne fallait-il pas me priver de la satisfaire et de le rendre innocent dans ses pleurs quand elle le supposait coupable. Peut-être, avant d'aller plus loin, ne me sera-t-il pas inutile de dire pourquoi j'avais fait arrêter Otto. C'était pour qu'il n'eût pas le temps de se désimpliquer, soit en faisant disparaître les traces de sa participation au vol, soit en stipulant son impunité avec la police. Mais la tendre Émilie, quel motif de la séquestrer? N'avais-je pas à redouter son retour chez la Bariole, où dans la loquacité de l'ivresse, elle pouvait rabâcher des réminiscences dont Caffa ferait son profit? M'objectera qu'elle était hors d'état de se tenir debout. Oh, je ne le contesterai pas, mais le lecteur voudra bien se souvenir que justement, d'après l'expérience des enfants et des ivrognes, certains philosophes ont été induits à penser que l'homme, la femme y comprise, fut ordinairement un quadrupède. Émilie, ne fût-ce qu'à quatre pattes, aurait pu regagner ses périples, ses pénates, et alors, pour peu que sa langue lui revint, mes démarches étaient infailliblement divulguées. Après toutes ces précautions, Otto était déjà sous ma coupe. Il ne me restait plus qu'à m'assurer de ses trois complices. Je savais où prendre chacun d'eux. Je me fis accompagner par deux agents de préfecture, et bientôt ce fut au nom de la loi que je me présentais de nouveau chez la Bariole. « Oh !» me dit la mère, « quand je t'ai vu traîner les culottes par ici, je m'ai méfié, cela ne se sentait pas bon. Qu'est-ce que j'offrirai à ces messieurs ? » ajouta-t-elle en s'adressant aux deux inspecteurs. « Vous prendrez bien quelque chose. Voyons votre goût. De la petite bouteille, c'est celle des amis. » Et tout en parlant, elle se baissait pour fouiller dans son comptoir, où elle prit, au milieu d'un paquet de chiffons, un vieux flacon doré qui contenait le précieux liquide. « Je suis obligé de la cacher, car avec ces demoiselles, allez, on est bien à plaindre lorsqu'on a affaire aux femmes. Je promets que si je trouvais à vendre mon fond, que ceux qui ont de quoi vivre soient heureux. Oh, regardez, j'ai pas seulement de quoi m'avoir un fauteuil. En Blazac, et comme l'écorché de la pitié, on envoie les eaux. Ah oui, parlons-en de votre sofa. Il a de beaux cheveux avec son pied cousu et ses crins au vent, dit une jeune fille qui, au moment de notre entrée, dormait penchée sur une table dans un des coins de la salle. C'est bien le cas de dire que c'est comme Philémon et Baucis. Ah, ah, c'est toi, c'est la petite Réale. Je ne te voyais pas, mais qu'est-ce qu'elle chante, mademoiselle, comme il faut, avec son Philémis et Baucis. Comment que tu dis donc? Je dis, répondit Fifine, qu'il est comme le trépied de la Sibylle. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est le fauteuil du trépied. Il dit pas toujours ça. On le fera rempailler. C'est que, voyez-vous, elle a reçu de l'indication. C'est pas une fichue bête comme moi. Voilà ce que c'est d'appartenir à des parents. Oh, bah, j'en sais bien assez pour manger mon bien. Alors, viens, Fifine, tord le cou à ce polichinelle. Y a quelqu'un pour toi. Vous êtes bien bonne, madame. On ne va pas le dire aux autres. La rasade est versée, Une double rangée de perles se forme à la surface du cognac. Elle est délicieuse. Je dis qu'elle est dans le Corso Barbara, observa Fifine. Eh bien, messieurs, reprit la Bériole, ça va-t-il rester pour les capucins? Allez, renflons, je trinque avec vous. À la vôtre, mes enfants. Dire que nous sommes ici tous bien d'accord et qu'il nous faudra mourir un jour. Oh, c'est si gentil d'être d'accord quand on est des amis. Ça me semble, fort. Mon Dieu, oui. Oh, il nous faudra mourir. C'est ce qui me chiffonne. Et avoir tant de tracas sur cette terre, mais c'est plus fort que moi. Il n'y a pas de minute où je ne me repasse pas l'idée. Mais soyons honnêtes, c'est le principal avec ça. On peut toujours aller tête levée. Et ce qui n'est pas ne nous tente pas. En tout cas, je peux mourir quand je voudrais. On ne me reprochera pas la tête d'une épingle. Ah, ça, mais qu'est-ce qui vous amène donc à cette heure, mes enfants? C'est pas pour mes femmes, elles sont toutes tranquilles. Vous en avez un échantillon, montrant Félicie. Voilà le plus rangé. Mais à propos, Jules, qu'as-tu donc fait de Mélie? Je te conterai ça plus tard. Donne-nous de la chandelle. Oh, je parie que c'est après Caffin que tu cherches. Bon débarras, je t'assure. Un mangeur de blanc. Un homme qui vit aux dépens des filles. Un batteur de femmes, interrompit Fifine. On voit pas souvent de son argent, celui-là, reprit la Bariole. Tiens, Jules, regarde un peu sur l'ardoise sa dépense et le gain de sa femme. Fait pas seulement assez pour lui. Que Paris serait bien purgé si on pouvait tous les enfoncer. Elle voulait me conduire à la chambre du mangeur, mais comme je savais le chemin tout aussi bien qu'elle, je la remerciais de son obligeance. La seconde porte, nous dit-elle, la clé est dessus. Je ne pouvais me tromper, j'entre, et je signifie à Caffin qu'il est mon prisonnier. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? Dit Caffin en s'éveillant. Comment, Jules ? C'est toi qui m'emballe ? Ah, que veux-tu, mon ami ? Je ne suis pas sorcier. Si on ne t'avait pas coqué, dénoncé, je ne viendrais pas interrompre ton sommeil. Oh, te voilà encore avec tes couleurs. T'as tort, mon fils. C'est de la vieille Amadou, ça, ça prend pas. Comme tu voudras, c'est ton affaire, mais si ce qu'on dit est vrai, ton compte est bon. T'iras au pré. Quoi, ça, et bois de l'eau. Tu seras jamais seul, jamais sous. Enfin, faut-il te mettre le nez dessus pour que tu dises « c'est ». Écoute, je n'ai pas d'intérêt à te battre comptoir. Je te le répète, je ne suis pas deviné. Si on ne m'avait pas dit que vous aviez grinché volé du plomb, sur le boulevard Saint-Martin, vous avez failli être arrêté par le gardien. Tu n'aurais pas maintenant ma visite. C'est clair. Sur quatre que vous étiez, il y en a un qui a tortillé, qui a avoué. Devine qui ? Si tu le nommes, je te dirai, c'est lui. Caffin, réfléchissant un moment, puis relevant brusquement la tête comme un cheval qui capuchonne, « Tiens, Jules, me dit-il, Je vois bien qu'il y a parmi nous une canaille qui a mangé. Fais-moi conduire, Milcar d'œil, commissaire. Je mangerai aussi. Faut-il être gueux pour vendre des camarades à l'argent comptant, surtout quand on s'égrinche. Toi, c'est autre chose. Tu t'es rendu rousse, mouchard, par force. Je suis bien sûr que si tu trouvais un bon coup à faire, tu m'offrirais la politesse à la chiome, à la police. Comme tu dis, mon ami, si j'avais su ce que je sais, je te répondrais que je ne suis pas là. Mais quand je m'en bouleverserai le sang, c'est fait, il n'y a plus à y revenir. Et où as-tu mené de ce pas ? Au poste de la place du Châtelet. Et si tu es décidé à avouer la vérité, je vais faire prévenir le commissaire. Oui, fais-le venir. Je vais enfoncer ce coquin d'auto, car il n'y a pas d'autre que lui qui a pu nous en manger. Le commissaire arrive, Caffin lui fait l'aveu de son crime, mais en même temps, il ne néglige pas de charger Otto et il le désigne comme son complice unique. On voit que ce n'était pas un faux frère. Ses deux amis ne montrèrent pas moins de loyauté. Surpris également au chaud du saut du lit, et interrogés séparément, ils ne purent faire autrement de reconnaître coupable. Orto, qu'ils accusèrent de leur malheur, fut le seul que chacun d'eux inculpa. Même malgré cette noblesse de sentiment, digne d'être citée parmi les beaux faits de la nouvelle morale en action, ce généreux trio envoyé aux galères et le perfide Orto fut condamné à leur tenir compagnie. Il est aujourd'hui au bagne, où vraisemblablement il se garde bien de rappeler les particularités les plus curieuses de son arrestation. Émilie Simonet en fut quitte pour environ 6 heures de captivité, et quand on la remit en circulation, elle était à demi asphyxiée par la boisson qu'elle avait prise. On n'entendait plus, elle n'entendait plus, elle ne parlait plus, elle ne voyait plus, elle n'avait pas gardé le moindre souvenir de ce qui s'était passé. À la première lueur qui se fit dans sa mémoire, elle demanda son amant, et sur cette réponse d'une de ses compagnes, « Ben, il est à la santé, à la force. »« Oh, le malheureux !» s'écria-t-elle. « Qu'avait-il besoin d'aller chercher le plomb sur les toits ? Auprès de moi, avait-il pas tout ce qu'il lui fallait ? » Depuis, l'infortunée Émilie s'est montrée inconsolable et modèle exemplaire d'une douleur qui eût empoisonné chaque jour. Si le matin, on ne la voyait qu'un petit peu bu, chaque soir, elle était morte ivre. Terrible effet de l'amour et de l'eau de vie et de l'amour. Un vol de peu de conséquences m'a fourni l'occasion de tracer des peintures bien hideuses. Cependant, elles ne sont encore que des esquisses très incomplètes d'une réalité abominable, dont l'autorité, qui doit être la promotrice de toute bonne civilisation, nous délivrera lorsqu'elle le voudra. Souffrir que des gouffres de corruption, où le peuple s'abîme corps et âme, soit incessamment ouvert, c'est un déni de morale, c'est un outrage à la nature, c'est un crime de lèse-humanité. Que l'on n'accuse pas ces pages d'être licencieuses, ce ne sont pas ces récits de Pétrone qui partent le feu dans l'imagination et font des prosélytes à l'impureté. Je décris les mauvaises mœurs, non pour les propager, mais pour les faire haïr. Qui pourrait avec lui avoir lu ce chapitre, ne pas le prendre en horreur, puisqu'elle produise le dernier degré de l'abrutissement ?